BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans le Check-up Santé. Aujourd'hui, deux institutions, deux piliers de notre système de soins en France, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et l'Assurance Maladie. Pour la Haute Autorité de Santé, beaucoup pensent qu'elle n'évalue que les médicaments. Eh bien, son nouveau directeur général, Jean Lessy, nous décrira les multiples fonctions de cette autorité publique indépendante. Quant à l'assurance maladie, elle joue depuis 75 ans un rôle majeur au service de la solidarité nationale. A-t-elle su s'adapter au changement de nos modes de vie et à celui de la pratique des professionnels de santé? Marguerite Cazeneuve, la directrice déléguée de l'assurance maladie, est sur le plateau de Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti. Jean Lessy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes nouveau directeur de la Haute Autorité de Santé. Je le dis toujours, mais vous êtes passé, pour tous les invités, vous êtes passé par l'ENA quand même, et l'Institut d'études politiques de Paris. Donc, vous êtes depuis quelques mois, simplement, la Haute Autorité de Santé. L'HAS, hein, on va gagner du temps comme ça. L'HAS, donc, c'est une autorité publique, mais indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut être public et indépendant en même temps?
Oui. Tout à fait. Indépendante, ça veut dire que la HAS est une autorité scientifique qui donne une expertise, donc en toute indépendance, au service de la qualité du système de santé. Alors concrètement, ça veut dire trois choses. D'abord, et vous l'avez dit, elle évalue les médicaments, les dispositifs médicaux. Est-ce qu'ils apportent des solutions de qualité aux patients? Ensuite, elle fait des recommandations de bonnes pratiques pour que les patients en France aient des prises en charge de qualité, pour appuyer les professionnels à donner ces prises en charge de qualité. Et enfin, elle mesure la qualité des prises en charge à l'hôpital ou dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
Alors, votre siège est à Saint-Denis, c'est ça?
Tout à fait, oui.
Pas mal de monde quand même. Un gros budget et pas mal de monde. Combien de collaborateurs?
Presque 450 collaborateurs et plus de 70 millions d'euros de budget.
Et un paquet d'experts externes, plus de 1600 experts.
Oui, l'année dernière, même 1800 experts, tout à fait.
Alors, une des fonctions importantes de l'HAS, on l'a dit, c'est d'évaluer les médicaments avant leur éventuel remboursement et leur mise sur le marché. C'est une responsabilité énorme.
En effet, on doit garantir que l'on mette à la disposition des patients des produits qui apportent quelque chose, des produits qui ont une valeur ajoutée, thérapeutique notamment. Voilà. C'est ça le principal objectif de notre intervention.
Donc rigueur scientifique à toute épreuve.
Tout à fait.
D'où les experts.
Oui, et d'où l'indépendance.
D'où l'indépendance.
Parce que sans l'indépendance, vous risquez d'avoir des biais dans l'expertise. Donc il faut être indépendant. Et sans indépendance, il n'y a pas de confiance, évidemment, dans l'expertise qui est donnée. Donc alors, l'indépendance est essentielle.
Alors il y a eu à chaque fois quelques polémiques sur ces fameux experts qui sont reconnus, évidemment, pour leurs compétences. Et malgré cela, ils ont souvent participé à des bords d'essais cliniques avec l'industrie pharma, ce qui me semble normal. Est-ce qu'il ne faut pas confondre, on l'a toujours dit, il ne faut pas confondre conflit d'intérêts et liens d'intérêts?
Le fait que les experts aient des liens d'intérêt, certains experts aient des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, en soi, ça pose pas de problème.
Tant qu'ils ne travaillent pas, leur compétence d'être invités partout et
ça nourrit leur compétence, ça nourrit leur expérience. En revanche, quand ils vont travailler sur un médicament ou sur un sujet donné, là, il faut éviter le conflit d'intérêt. S'ils ont un conflit d'intérêt, ils ne travailleront pas sur ce sujet-là.
Bien sûr, mais ils peuvent travailler sur d'autres
sujets sur lesquels ils n'ont pas de conflit.
Alors, après les médicaments, c'est les dispositifs médicaux que vous évaluez. Et à la différence, il y a quand même une différence avec les médicaments. C'est peut-être que le temps qui est plus court et peut-être une variabilité plus importante du dispositif par rapport aux médicaments.
Alors, l'évolution dans le temps, la question se pose.
Il évolue plus vite qu'un médicament une fois qu'il est sorti, non ou pas?
Il peut évoluer plus vite, notamment alors, aujourd'hui et surtout demain avec l'intelligence artificielle. Parce qu'en effet, nous, on évalue à un instant T, mais lorsqu'on va avoir des dispositifs médicaux qui embarquent de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui apprennent au fur et à mesure, le dispositif évoluera lui-même. Donc ça, c'est un défi pour demain, et vous avez raison, c'est une différence. En revanche, il y a beaucoup de points communs. D'abord, notre évaluation, à la fin, c'est la même, c'est de dire, est-ce qu'il a une valeur ajoutée, ce dispositif médical, pour les patients? Et deuxième élément, c'est que dans les deux cas, nous, notre priorité, c'est qu'on mette à disposition des patients le plus rapidement possible les dispositifs médicaux ou les médicaments innovants. On a des voies rapides dans les deux cas, l'accès précoce pour les médicaments et pour les dispositifs médicaux, on a également des dispositifs comme le forfait innovation.
On peut commencer à avoir des dispositifs médicaux qui sont remboursés par l'assurance maladie?
Ah oui, on en a de
plus en plus.
Oui, bien sûr, mais c'est déjà le cas depuis des années. Ce qu'on voit arriver de plus en plus, en revanche, c'est de nouveaux types de dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux numériques,
dispositifs médicaux connectés, etc.
Oui, ou de télésurance. Un exemple, suivre à distance des patients atteints d'un cancer et qui suivent un traitement, par exemple, de radiothérapie. Eh bien, pour éviter trop de déplacements et pour affiner le suivi, ils vont pouvoir remplir des questionnaires sur leurs données, voilà, sur leur état de santé, sur la manière dont ils se sentent, et ça permettra aux professionnels de santé qui les suivent à distance d'affiner le suivi, de les suivre mieux.
Alors, la Haute Autorité de Santé, elle est évidemment française, mais il y a aussi une autorité de santé européenne. Et qui a autorité sur qui et comment ça se passe ?
Alors, aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, donc, elle donne un avis sur l'utilité des médicaments ou des dispositifs médicaux en vue de leur remboursement ou non par l'assurance maladie. Ça, c'est quelque chose qui reste national et qui restera national. On a 27 systèmes d'assurance maladie très différents, ça restera national. En revanche, il va y avoir une grande évolution, un grand progrès aussi pour l'Europe de la santé à partir de janvier 2025, c'est qu'on va mutualiser au niveau européen les données scientifiques.
La science est universelle, c'est la même pour tout le monde. Oui.
On concevrait difficilement qu'il y ait 27 données scientifiques différentes sur un médicament dans les 27 États membres. Donc l'idée à partir de 2025, c'est de commencer à mutualiser, à partager les données scientifiques. Et après, chaque État, en revanche, appliquera ses critères, décidera ou non de le rembourser et à quel prix.
Oui, ça restera national. En fonction de son système de santé.
En fonction de son système de santé, et on sait qu'on a 27 systèmes de santé différents. Mais on va mutualiser les données scientifiques.
Oui. Le risque, ce n'est pas de majorer peut-être les lenteurs de sortie d'un produit ?
Alors, au contraire, l'idée, c'est en n'ayant qu'une seule évaluation, une fois pour toutes, une fois pour 27, si j'ose dire, ça serait...
Pour l'évaluation scientifique.
Pour l'évaluation scientifique, c'est qu'ensuite le médicament soit plus vite disponible partout. Et en effet, il faut se mettre en ordre de bataille pour pas qu'on crée une couche de délai supplémentaire, une couche de délai administratif supplémentaire. Et on s'organise en ce sens.
Disons, sur le plan national, par rapport aux autres pays européens, est-ce qu'on on a les mêmes délais pour sortir un produit, pour le désigner d'un remboursement, de sa valeur scientifique ? Est-ce qu'on est à peu près au même niveau que les autres pays européens ?
On est en moyenne meilleure. Ouais, déjà, parce qu'on a en France une voie rapide remarquable. On a une voie rapide remarquable qui s'appelle l'accès précoce. L'accès précoce, ça permet, en médiane, en 76 jours, d'avoir des molécules innovantes mises à disposition de patients qui sont dans des impasses thérapeutiques. En 2 ans, on a donné environ 100 d'autorisations d'accès précoce en France pour 100 000 patients qui était en impasse thérapeutique, par exemple, je pense au myélome multiple. Donc, on a cette voie rapide, elle est spécifiquement française.
D'accord. Donc, vous évaluez donc les médicaments, les dispositifs médicaux, mais aussi, on ne le sait pas assez, les pratiques professionnelles et surtout les établissements de santé. Et vous avez lancé un espèce de score pour les établissements de santé en fonction de leur qualité, de leur capacité à soigner bien ou pas les patients.
On mesure la qualité. La qualité des prises en charge dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, sur les établissements de santé, en effet, depuis une vingtaine d'années, la Haute Autorité de Santé, elle certifie les établissements de santé. 2500 établissements de santé en France. Là, on est sur un exercice qui a commencé il y a 2 ans. C'est la version actuelle de la certification.
Ça s'appelle Caliscope, non ?
Alors, non. Caliscope, tout à fait, c'est le portail grand public pour accéder aux résultats à la fois de la certification et des indicateurs de qualité. Caliscope, c'est un grand succès. C'est 2600 visites par jour, sur Caliscope pour se renseigner sur le niveau de certification de mon hôpital ou sur les indicateurs de qualité.
Mais quels sont ces critères justement de qualité ? Parce qu'on ne peut pas dire à un patient, n'allez pas dans cet hôpital, il n'est pas au niveau. On ne peut pas dire ça.
Il s'agit d'être transparent. C'est important pour les patients, c'est important aussi pour les professionnels parce que l'objectif, c'est d'améliorer les pratiques. Prenons un exemple d'indicateur de qualité, le taux de satisfaction des patients. On demande aux patients de mesurer eux-mêmes leur taux de satisfaction. Et là-dessus, par exemple, ces dernières années, la satisfaction des patients, elle a progressé en France. En gros, les 3/4 des patients, que ce soit en ambulatoire ou en court séjour, lorsqu'ils sortent d'un établissement de santé, ils sont satisfaits, globalement, de la prise en charge qui a été la leur. C'est important de le savoir.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Lessy. Vous revenez quand vous voulez dans l'émission. Si vous avez d'autres sujets, j'imagine qu'il y en a d'autres. On va à présent accueillir Marguerite Cazeneuve.
Merci pour l'invitation.
Qui est directrice déléguée de l'assurance maladie.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé.
Marguerite Cazeneuve, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes la directrice déléguée de l'assurance maladie. plus dynamique que vous, tu meurs. On vous voit partout porter la bonne parole et défendre votre institution. Je dis toujours qu'on a toujours l'âge de son activité, donc vous avez 72 ans. On est bien d'accord ?
Oui, c'est ça.
En tout cas, vous les faites moins. C'est plus vous en vrai. Faites moins. Alors, l'assurance maladie, donc, comment ça marche, hein, en général, l'assurance maladie reçoit de l'argent et ensuite elle va le distribuer. D'accord ? Elle en reçoit combien et d'où ?
Alors l'assurance maladie, hein, c'est le système historique d'assurance maladie des Français. Alors peut-être pour vous redonner quelques chiffres pour qu'on se situe par rapport aux autres pays notamment. Aujourd'hui en France, on dépense environ 12% de notre PIB sur la santé. Donc 12%, ça nous positionne parmi les pays qui investissent le plus dans leur santé, qui dépensent le plus dans leur santé. On est grosso modo entre l'Allemagne et le Japon, sachant qu'il y a un acteur pour le coup qui dépense beaucoup plus, c'est aux États-Unis où vous avez 17 les dépenses de santé aux États-Unis, c'est 17% du PIB. Donc nous en France, on est
Avec un résultat un peu différent quand même.
Mais avec un résultat hyper différent et c'est là où je vais en venir absolument, c'est que donc nous on est dans pelon de tête avec des dépenses importantes du PIB, masse importante du PIB, mais effectivement la grande différence entre la France et la plupart des pays, c'est que 80% de cette dépense de santé, elle est assurée par l'assurance maladie. Vous avez ensuite la part des complémentaires et le reste à charge des patients qui est le plus faible au monde en France. Et donc effectivement l'assurance maladie, le but du jeu pour l'assurance maladie, c'est d'assurer un égal accès aux soins pour tous. Et donc, c'est ça notre vocation. Donc,
pour tous les Français, tous les résidents.
Exactement. Tous les assurés, qu'on appelle les assurés sociaux. Donc, on contribue selon ses moyens et on a un accès aux soins selon ses besoins. Et donc, effectivement, l'assurance maladie, elle doit gérer à la fois ses recettes et ses dépenses. Donc, on y reviendra peut-être. Effectivement, elle est en déficit.
Ces recettes, elles viennent d'où, ces recettes?
Alors, vous avez, historiquement, hein, ce sont ce qu'on appelle les cotisations sociales, les cotisations patronales et les cotisations salariales. Après, les recettes se sont un peu diversifiées au fil du temps. D'une part, il y a eu la création de la CSG, qui est une contribution sociale, donc qui ne va que à la sécurité sociale, mais qui est un peu différente, qui fonctionne un peu différemment des cotisations sociales. Et puis par ailleurs, comme vous avez eu une politique de l'emploi qui fait qu'il y a eu des exonérations de cotisations sociales, notamment pour les plus bas salaires, au SMIC par exemple, il n'y a plus de cotisations maladie. Et donc là, c'est l'État qui vient compenser, notamment avec de la TVA, l'assurance maladie et la sécurité sociale. Et après, vous avez des taxes historiques, notamment les taxes sur le tabac et l'alcool qui viennent financer la prévention.
Et à partir de là, donc, on décide donc de dépenses, ça s'appelle l'ONDAM, c'est ça, hein, c'est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie. Donc à partir de là, donc, on définit, est-ce que cet ONDAM, il augmente tous les ans?
Alors l'ONDAM, il augmente tous les ans. Il est proposé par le gouvernement. Il est ensuite discuté par le Parlement. Donc chaque année, il est voté au moment de la loi de financement de la sécurité sociale qui dit voilà l'enveloppe dont vous disposez chaque année. Et donc en fonction de cette enveloppe-là, l'assurance maladie, elle doit entre guillemets faire en sorte de rentrer dans l'enveloppe. Ce qu'elle fait à peu près. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a alors l'assurance maladie, et ça on le sait pas toujours, mais la sécurité sociale et l'assurance maladie ont pratiquement été à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on a un peu cette image d'une assurance maladie et d'une sécurité sociale structurellement déficitaire. C'est pas le cas. Hein.
Qu'est-ce qui crée le déficit?
En 2018-2019, on était à l'équilibre et puis il y a eu la crise Covid qui a précipité nos finances publiques, évidemment. Voilà. Et du côté de la sécurité sociale, on a à ce moment-là encaissé un déficit de 40 milliards d'euros. Aujourd'hui, on est à 10 milliards de déficit, donc c'est un très gros déficit. Mais on voit bien qu'on progresse et surtout, voilà, on a supporté des très lourdes charges pendant la crise Covid et donc l'objectif maintenant c'est de redresser évidemment.
Bien sûr, donc on est un régime solidaire, donc c'est une chance pour nos concitoyens. On est vraiment au top hein, par rapport aux autres pays et pourtant, et malgré cela, les Français sont pas contents, l'hôpital public n'est pas content, le privé non plus, les industriels du monde de la santé n'est pas content. C'est quoi? C'est typiquement français ou il y a des raisons?
Alors, je me prononcerai pas là-dessus, mais il y a sans doute un petit contexte effectivement culturel qu'on retrouve dans d'autres types de barèmes internationaux où les Français globalement sont moins contents de ce qu'ils ont que leurs voisins européens et puis même au niveau mondial. Après, ce qui est sûr, c'est que il y a le système de santé aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il va très bien. Il ne va pas très bien. On a effectivement un sujet de financement de l'hôpital. On a un sujet sur les professionnels de santé libéraux. On est un petit peu en retard sur la prévention. On a des assurés sociaux. On a encore des inégalités sociales de santé importantes. Et donc tout ça, nous, évidemment, l'assurance maladie, ce qu'on regarde, c'est les défis qui nous restent encore à relever. Et donc,
tout ne peut pas être parfait à 100%.
Tout ne peut pas être parfait. Donc on a des vrais défis. Et donc de ce point de vue-là, évidemment, on comprend tous les mécontentements et c'est à ça qu'on, voilà, c'est à ça qu'on s'attelle. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, parfois, il faut aussi regarder le verre à moitié plein. Oui. Et donc, on regarde
le verre.
En tout cas, quand il est à moitié plein, on a quand même aujourd'hui 95% des patients en ALD qui ont un médecin traitant, 95% du territoire qui est couvert par la PDSA, c'est-à-dire par les gardes astreintes en début de nuit. Donc, ça, c'est des chiffres qui montrent quand même qu'on est quand même assez proche de notre objectif. Mais les 5% de patients qui n'ont pas de médecin traitant, les 5% de gens qui n'ont pas de médecin sur leur territoire ouvert entre 20h et minuit, ces gens-là, ils ont raison, entre guillemets, de ne pas être satisfaits et donc de demander à l'assurance maladie de faire davantage d'efforts.
Et justement, pour réduire un petit peu ce déficit, il y a pas mal de choses à faire, mais il y a une chose pour beaucoup importante, c'est peut-être de responsabiliser les patients. On a l'impression que beaucoup disent qu'en France, c'est open bar, on peut consulter 4 fois par semaine, 6 fois par semaine, être remboursé 100 fois. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen peut-être de responsabiliser la population? Là, on est passé d'ailleurs d'un reste à charge de 50 centimes à 1 euro, je crois.
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut globalement que tous les acteurs du système de santé, en fait, dans les acteurs du système de santé, il y a effectivement les patients et les assurés sociaux, mais aussi les entreprises. Quand vous avez d'une entreprise à l'autre deux fois plus de salariés qui sont en arrêt maladie, ça peut aussi vouloir dire quelque chose sur la santé au travail, sur la manière dont l'employeur entre guillemets se comporte. Et puis vous avez tous les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou salariés. Et en fait, c'est
donc une responsabilité
c'est
partagée.
Une responsabilité collective. Et effectivement, quand on regarde les assurés sociaux, la fraude, elle vient minoritairement par exemple, des assurés sociaux. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a un système qui n'est pas très optimal, avec, par exemple, la possibilité de refaire des radios plusieurs fois. Mais ça, c'est un sujet qu'on va typiquement pouvoir traiter grâce à Mon Espace Santé, le numérique, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un dossier sécurisé qui fait qu'on ne va pas refaire plusieurs fois le même examen. Et puis, toujours sur la lutte contre la fraude, par exemple, vous avez aujourd'hui...
Justement, parlons de cette fraude récente.
Alors bon, lutte contre la fraude, c'est par définition, quand vous avez un système qui est très généreux, vous avez toujours une minorité d'acteurs qui en profitent, et donc c'est le cas en France.
Une minorité qui finit par gêner la majorité, évidemment.
Exactement, absolument, et les professionnels de santé, et les assurés, et les entreprises d'ailleurs. Et donc on a une fraude qui est en France une fraude qui est vraiment très organisée. Donc vous avez de temps en temps, des professionnels ou des assurés qui ont des actions individuelle, mais c'est vraiment de la fraude organisée, notamment de la fraude organisée sur le médicament, où là c'est vraiment de la fraude organisée pour de l'exportation de médicaments. Et donc on a cette année, on va déployer quelque chose de tout à fait nouveau qui est l'ordonnance numérique. D'ici la fin de l'année, elle devrait être généralisée. L'ordonnance numérique, c'est quoi? C'est une ordonnance avec un QR code, ce qui fait que l'ordonnance, elle ne pourrait être utilisée qu'une seule fois. Et donc ça, c'est quelque chose qui va véritablement changer la donne.
Sans passer par les blockchains, sans passer par...
C'est un QR code, ça fonctionne pour les... quand vous allez à un concert ou je sais pas quoi, et donc l'assurance maladie, maintenant, elle aura son ordonnance avec son QR code. Et quand on regarde, ne serait-ce que cette année, sur 2023, on avait un objectif autour de 350 millions d'euros de lutte contre la fraude, et on a fait quasiment 100 millions de plus. Donc on a surperformé en lutte contre la fraude, et notamment parce qu'on a réussi à démanteler des centres de santé, notamment un centre qui s'appelle Alliance Vision, où là c'est vraiment des réseaux de centres fraudeurs qui facturaient des faux actes à l'assurance maladie. Et donc on a maintenant des enquêteurs, et on est très organisé maintenant pour lutter contre la fraude organisée.
Est-ce que vous pensez que l'arrivée du digital, de l'intelligence artificielle va permettre aussi de réduire ces fraudes, mais surtout de réduire peut-être globalement vraiment ce déficit de l'assurance maladie?
Alors ce qui est sûr, c'est que nous, on va l'utiliser, l'IA. Mmh. Donc on commence là sur justement les fausses ordonnances. On a maintenant des outils qui nous permettent de repérer les fausses ordonnances. On alimente la machine et puis elle apprend à reconnaître des vraies ordonnances, des fausses ordonnances. Ça, c'est une première chose. On a aussi un système qu'on va mettre en place sur l'imagerie dentaire. On va être capable de savoir avec de l'IA si il était nécessaire ou pas de faire une prothèse dentaire, parce qu'on sait qu'il y a de la fraude aussi sur le sujet. Donc nous, l'IA, on va beaucoup l'utiliser. Et puis de manière générale ensuite pour le système de santé, le fait qu'on soit de plus en plus dans le numérique, le fait qu'on ait effectivement des systèmes qui soient intelligents, ça va permettre aux professionnels de santé de ne pas répéter des actes qui sont inutiles, de mieux communiquer, parce qu'on va avoir des données structurées autour du patient. Et donc quand vous allez arriver à l'hôpital, en fait l'hôpital saura qui vous êtes et donc n'aura pas besoin de refaire un certain nombre d'examens. Tout le monde va gagner du temps, on va gagner effectivement de l'argent et puis on va redonner du temps aux professionnels de santé et donc à la fin aussi aux patients.
Alors justement, pour finir, malgré toutes les critiques à chaque fois sur les actions de l'assurance maladie, on peut au moins louer deux initiatives qui ont et qui vont améliorer le système. C'est d'abord la carte vitale, qui a été un énorme progrès.
Qui était un carton, on peut le dire, même si au début ça a été difficile, hein, parce que tout le monde ne voulait pas l'utiliser, mais aujourd'hui elle est totalement...
Quasiment à plus de 90% utilisée.
Quasiment à plus de 90%, et puis je veux dire, c'est vraiment devenu quelque chose qui est rentré totalement dans les mœurs, ce qui fait qu'on va passer une prochaine étape, c'est l'application carte vitale, donc on commence à la déployer cette année dans quelques départements. Et,
donc la carte vitale sur smartphone.
Exactement, donc vous aurez sur votre smartphone votre carte vitale, ce qui permettra derrière d'avoir un élément d'identification et d'authentification beaucoup plus sécurisé sur votre parcours de soins et de santé. Et puis effectivement mon espace santé qui fête ses deux ans. On a fêté ses deux ans et mon espace santé, c'est vraiment l'avenir. Donc c'est le carnet de santé numérique de tous les Français. On a aujourd'hui 16% des assurés qui l'ont activé et toutes les personnes qui nous regardent peuvent aller l'activer. Grosso modo, c'est un carnet de santé numérique qui est directement alimenté dès que vous allez à l'hôpital, chez le médecin, dans un laboratoire de biologie. Tous les acteurs de santé, à la fin, leur compte rendu, ils doivent le mettre sur votre espace santé, ce qui fait que vous avez à un endroit l'ensemble de vos documents de santé qui sont consolidés.
Et le patient est unique propriétaire, évidemment, de son espace santé.
Et le patient est l'unique propriétaire de cet espace santé. Même l'assurance maladie, elle l'héberge, mais elle n'a pas accès aux données qui sont contenues dans l'espace santé du patient.
D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on passe de 16% à 25, 30, 40, 50? Est-ce qu'il faut former plus, il faut plus former les médecins peut-être, ou pas, les professionnels de santé en tout cas, sur l'utilisation? Oui.
Nous, on a des délégués du numérique en santé. L'assurance maladie, elle a toute une armée d'experts du numérique en santé qui accompagnent les médecins, qui accompagnent les différents professionnels de santé. Mais là, moi, je suis assez consciente sur l'année 2024, ça va monter en puissance, parce qu'il fallait que les logiciels des différents professionnels de santé, d'une certaine manière, soient connectés à l'espace santé. Et donc ça s'appelle le Ségur de la santé. Donc on a passé cette première phase. Et donc maintenant, ça va aller beaucoup plus vite dans l'alimentation. Et donc je suis assez consciente sur le fait qu'en 2024, ça va aller très vite et très fort. Mais j'encourage tous vos téléspectateurs à activer leur compte s'ils ne l'ont pas fait.
Alors, pour finir, il reste un volet quand même qui n'a pas toujours été bien connu du grand public et que fait l'assurance maladie, c'est la prévention.
Oui, alors l'assurance maladie, effectivement, alors un acteur très important de la prévention, parce que on le sait.
Dans l'idée de la population, c'est le curatif, c'est l'assurance maladie, la prévention, c'est un petit peu les mutuelles, les complémentaires santé.
Alors peut-être dans la perception, en tout cas ce qui est sûr, c'est que compte tenu du vieillissement de la population, de l'explosion des pathologies chroniques, etc., si nous, assurance maladie, en tant que financier, en tant qu'assureur, on n'arrive pas à opérer le virage préventif en lien avec le ministère de la Santé, le système, au bout d'un moment, il va exploser. Et on sait bien qu'on n'est pas du tout au top aujourd'hui sur la prévention en France. Et l'assurance maladie, depuis le Covid, où elle a quand même appris à, notamment sur la vaccination Covid, elle a été un opérateur extrêmement important de la vaccination Covid, en appelant les assurés, en outillant les professionnels de santé. On va répliquer la même chose cette année sur les trois dépistages organisés du cancer, sein, utérus et cancer colorectal. Et donc, on espère bien, d'ici deux ans, arriver à 70%, qui est l'objectif qui est fixé par l'OMS. On est quand même beaucoup plus bas aujourd'hui. Et ça, on va le décliner, grosso modo, sur tout ce qui est dépistage, et donc tout ce qui est prévention secondaire, dépistage précoce, du diabète, des maladies cardiovasculaires, dépistage des troubles du langage chez l'enfant. Donc l'assurance maladie, on va se positionner là-dessus, puisque c'est c'est une des choses que l'on sait faire, c'est d'arriver à parler en même temps à l'ensemble des Français et aux professionnels de santé.
Eh bien, Marguerite, bravo vraiment pour votre dynamisme et votre compétence. Vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.